de Jérusalem, une femme qui est grecque, même pas juive, elle va montrer que son cœur est proche de Dieu. Alors, on a commencé ce culte avec parler de cette idée de notre identité. Et c'est important de constater que souvent, c'est les personnes à l'extérieur qui peuvent avoir toutes les marques d'une identité très religieuse, en fin de compte, qui sont loin de Dieu. Et les personnes à l'extérieur peut-être ont un regard très loin de Dieu, qui sont en fait très très proches. Et donc ce matin, j'aimerais juste voir avec vous deux parties de cette histoire, deux choses que cette histoire de cette dame peuvent nous enseigner. Premièrement, le choc que Jésus donne. Il donne un choc dans ce passage. Et deuxièmement, l'accès que Jésus offre. Donc commençons avec ce choc que Jésus donne, qu'on voit bien dans cette histoire. Donc, si vous voyez, en verset 24, on a Jésus, il part. Il part de son propre pays, il part d'Israël, il va dans le territoire de Tyr et Sidon. Et en fait, il part tout de suite, comme dit, après avoir un grand conflit, un débat avec les pharisiens. C'est intéressant juste de réfléchir un peu sur ce débat. La question au fond du conflit, c'est la question de la pureté. Et c'est le discours, un conflit discours plus long dans tout l'évangile de Marc, cette discussion entre les pharisiens et Jésus. Et à l'époque, la question de la pureté est une question tout à fait importante. En fait, c'est une réponse à la question comment se positionner pour recevoir les bénéfices de Dieu. Quelles sont les choses à faire pour vraiment être dans la position pour recevoir les bénédictions, les bénéfices de Dieu. Et pour les pharisiens, pour les spécialistes, la question, la réponse était vivre une vie pure. Et c'est vrai, dans l'Ancien Testament, il y a plein de... Dieu avait donné à son peuple plein d'indices, plein de pratiques à faire pour signaler, pour montrer que la pureté, effectivement, était quelque chose de très important dans la relation entre le peuple et Dieu. Et bon, si vous avez lu Lévitique récemment ou les livres dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a plein de règles, plein de choses à faire. Et des fois, pour nous, ça me paraît un peu archaïque de faire toutes ces choses. Par exemple, si c'est vrai que dans la pensée biblique, la mort est quelque chose d'étrange. C'est un ennemi de Dieu. Et justement, donc là, dans l'Ancien Testament, on voit si quelqu'un touchait un cadavre, la personne a devenu impure. Et donc pour ça, il fallait faire quelque chose pour... c'était une chose à l'extérieur pour signaler ce problème avec la mort. Et on a tout un tas de choses. Et les pharisiens, ils avaient bien gardé tous ces règlements. Et en fait, ils ont rajouté encore pour être absolument sûr de ne pas faire des bêtises par voie ces règlements, ils ont rajouté encore plus de traditions, de pratiques pour bien protéger, être sûr qu'elle n'est pas se trouver dans une situation d'impureté. Et comme dit, oui, c'est pour nous, ça, c'est une partie de la Bible, toutes ces règles, des fois ça paraît un peu... Mais en fin de compte, pour nos relations aujourd'hui, c'est souvent le même cas. Hein. Si vous avez une relation très importante, par exemple une interview au travail, j'imagine que vous allez faire bien attention, même aux choses extérieures. Bien se brosser les dents, bien s'habiller, bien être en forme, même avec les petits détails, parce que ça montre l'importance de la relation derrière. Ou un des jeunes hein, qui faisait une sortie avec un copain, une copine potentielle. J'imagine là, on fait bien attention, hein, même aux détails. Hein, parce que même les choses à l'extérieur, ça montre un peu l'importance de la relation derrière. Et donc, c'est tout à fait normal que pour Dieu, c'était une relation importante, il a donné des indices, des pratiques à son peuple. En fait, je me souviens, quand j'étais à la fac de théologie, on avait pas mal d'étudiants qui venaient d'un peu partout dans le monde. Il y avait des étudiants de la Corée du Sud. Et pour elle, elle ne mettait jamais, jamais leur Bible par terre. Pour eux, c'était... Et c'était un petit truc, bon, nous, ça ne nous dérangeait pas trop, mais ça a montré pour nous, ça m'a touché un peu de voir le respect de la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas juste poser leur Bible n'importe où. Et c'est comme ça, Dieu a donné toutes ces règles pour garder, pour montrer l'importance de la pureté dans leur relation avec lui. Mais voilà le problème. Pour ces spécialistes, ces pharisiens, les traditions ont pris la place de la relation. Du coup, c'était l'idée, c'était juste si on fait toutes ces choses, de respecter la parole de Dieu, la seule chose qu'il faut faire, c'est pas poser la Bible par terre. Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça. Ou même si vous, des jeunes, vous sortez avec cette copine, et c'est magnifique, vous vous promenez au bord de du fleuve, le soleil se couche, c'est le moment, et vous dites, ah, j'ai vraiment un gars très sympa, je me brosse les dents chaque matin, et je m'habille avec les vêtements bien propres, et voilà, mon amour, c'est... Bon, bien évidemment, c'est les choses extérieures, c'est important, mais c'est rien à voir avec la relation, avec le caractère. Et c'est ça la conclusion de Jésus, il a cité Ésaïe, il a dit, vous m'honorez avec vos lèvres, mais vos cœurs sont loin. Vous avez des vies pleines d'activités religieuses, pleines de pratiques, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et il part. Bon, c'est presque symbolique, il part, il quitte ses leaders religieux et il se trouve dans le territoire de Tyre et Sidon. Et là, c'est intéressant, pour nous, les villes d'Auschwitz ou Waterloo, ça nous fait penser à certaines choses. Et pour un juif de l'époque, Tyre et Sidon, on fait penser à certaines choses aussi. C'est vraiment un territoire impur. Et là, dans un territoire impur, il va rencontrer une personne impure avec un besoin impur. Donc, un contraste fort entre ces discussions chez les pharisiens et cette dame. En fait, dans l'Ancien Testament, Tyre et Sidon étaient là où Jézabel, par exemple, elle est venue de cette région, donc il y avait toutes sortes d'idées liées à ça. La plus mauvaise reine dans toute l'histoire d'Israël. En plus, Ézéchias et Zacharie, les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont bien prophétisé contre l'opulence et les richesses de ces territoires. Et dans la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y avait des guerres, il y avait des combats, et les gens de Tyre et Sidon ont combattu contre les Israélites. Au tel point que Joseph, l'historien qui écrivait un peu la même époque, il disait à ces gens de Tyre, ils étaient nos pires ennemis, ces gens de ce territoire-là. Voilà, Jésus se retrouve dans cette région. Il rencontre une personne, une femme grecque. Donc Marc rend très clair qu'elle n'est pas juive. Elle est de ce coin, elle est syro-phénicienne. Elle n'est pas juive, elle est païenne dans ce sens-là. Et son besoin, elle avait une fille avec un esprit impur. Une impureté forte, même démoniaque. Et elle vivait, c'était sa propre fille, elle était dans sa maison. Elle vient avec Jésus, elle demande de chasser, de guérir sa fille. Et regardons la réponse de Jésus. C'est un peu troublant, je trouve, à première vue. Jésus dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus donne une petite parabole, mais qui montre très clairement que cette dame n'est pas la priorité, n'est pas sa priorité. Et c'est vrai, à l'époque de dire que quelqu'un est un chien, souvent c'était une insulte. Et c'est vrai, c'est un petit détail, le mot grec pour le mot chien, c'est pas il y a plusieurs mots pour chien, et c'est plutôt pour un petit chien, un chien dans une maison. Donc c'est pas forcément une insulte, c'est une parabole. Mais c'est clair que Jésus va communique dans cette parabole que cette femme n'est pas la priorité. Il y avait un certain ordre. D'abord à son peuple, le peuple d'Israël, les Juifs. Là, c'était vraiment le point au départ du ministère de Jésus. Et après, les autres nations. Et voilà, il donne une petite parabole qu'elle n'a pas vraiment le droit d'avoir la puissance de Jésus. Que Jésus n'est pas obligé de faire quelque chose, de faire quoi que ce soit pour cette dame. Et c'est un peu ça le choc que Jésus dit, vous ne méritez pas, tu ne mérites pas mon amour, ma grâce. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois que Jésus dit une telle chose. Là, il est un peu au moment le plus loin de chez lui. Il est dans le territoire des Tyrésidons, très loin dans un sens de chez lui. Mais vous savez, en l'évangile de Luc, vous vous souvenez du message, du premier message, la première prédication que Jésus a donnée dans son propre village, à Nazareth. Moi, je trouve ça assez intéressant. Donc là, c'est vraiment tout au début de son ministère, c'est en Luc chapitre 4. Il dit, l'Esprit ici, Ésaïe le prophète, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et les gens de Nazareth étaient impressionnés. Waouh, ça c'est chapitre 4, verset 22, dit, et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alors, c'est le fils de Joseph, quel message, mais qu'est-ce qu'il prêche? Bien, super, allez, les paroles de grâce. Et vous souvenez comment Jésus termine ce message? Il dit, je vous dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarephath dans le pays de Sidon. Et c'est assez intéressant, il y a plein de liens entre cette femme dans l'Ancien Testament, avec Élie et la dame syro-phénicienne que Jésus vient de rencontrer en Marc chapitre 7. Tous les deux de c'est le même territoire, tous les deux avec un grand problème avec leurs enfants, tous les deux viennent confronter quelqu'un qui était envoyé par Dieu vers elle. C'est intéressant, quand Jésus est là en Sidon, il dit, ah, Dieu n'est pas obligé. C'est d'abord les enfants et après les chiens. Et quand Jésus est chez sa propre famille, dans son propre village, il dit, Dieu n'est pas obligé. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, Dieu envoie quelqu'un chez nos ennemis et pas ici. Et voilà le choc de Jésus. D'abord, de vraiment montrer sa grâce, on va être conscient qu'on ne mérite pas la bonté. Et moi, c'est intéressant de voir les deux réactions. À Nazareth, les gens t'habillent. Ah, mais aiment bien, quelle parole de grâce. Ils aimaient bien l'idée de grâce. Chantons encore, grâce infinie. Mais oui, on aime bien cette idée. Mais dès que Jésus a vraiment appliqué l'idée de grâce, l'idée qu'on ne mérite pas, que nos pires ennemis méritent la grâce de Dieu au même niveau que nous, ça passait pas. Pas du tout. Vous savez, à Nazareth, les gens voulaient le faire précipiter d'une falaise. Alors, on n'aime plus ce message. Ils voulaient vraiment, ils ont rejeté à fond, se mettre en colère contre Jésus. Waouh! Je crois que c'est nous, point d'application. Est-ce qu'on est vraiment conscient? Est-ce qu'on est vraiment conscient qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu, que nos ennemis méritent au même niveau que nous, les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu? Ou est-ce qu'on voit, quand on voit quelqu'un qui est peut-être moins avancé dans la vie chrétienne, peut-être moins de sagesse que nous, et on voit que Dieu est en train de les bénir, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on est un peu irrité, un peu « Mais pourquoi Dieu, c'est pas juste? C'est nous, on travaille plus, on est plus... on fasse plus d'activités religieuses. » Moi, des fois, c'est facile. Je me souviens, quand j'étais pasteur, on avait un pasteur de jeunes qui travaillait dans la même église. Et souvent, ils venaient, je crois, avec le but de vraiment m'encourager avec les autres histoires des jeunes pasteurs qui avaient beaucoup de succès. Je me souviens, David, regarde ce pasteur, il est très connu en Californie. Il dit qu'il travaille 45 minutes pour chaque message. Oh là là, moi, j'étais en train de bosser des heures. Et lui, plein de succès, l'église est en train de grandir, c'est énorme ce que Dieu fait au travers de ce gars. Et là, franchement, j'étais un peu irrité. Mais pourquoi je suis irrité? Et parce que j'ai un cœur comme les gens de cette synagogue de Nazareth. Des fois, j'ai du mal à vraiment voir mon besoin et même la réalité de la grâce de Dieu. On ne mérite pas. Quand Dieu fait quelque chose, c'est un cadeau, c'est un don. Et des fois, je suis un peu plutôt dans le rythme des pharisiens. Donc voilà, le choc. Jésus nous donne ce choc qu'on ne mérite pas. Mais deuxièmement, regardons l'accès que Jésus offre. Et là, en verset 29, on voit la réponse de cette dame, tout à fait différente des gens de Nazareth. Oui, ça c'est le premier mot, oui Seigneur. Elle n'est pas irritée, elle ne se met pas en colère, oui. Je suis d'accord, je ne mérite pas, je ne suis pas la priorité. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et c'est clair dans cette histoire et ailleurs que cette réponse est une réponse de foi, de vraie foi. En fait, en Matthieu, il nous donne aussi cette même histoire. Et la réponse de Jésus en Matthieu est la suivante. Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande. » Donc, la réponse de cette dame nous vraiment donne une image forte de la véritable foi. Et qu'est-ce que c'est, en fin de compte, la foi, de vraiment agir avec foi envers Dieu? C'est vraiment d'avoir une réelle confiance en Dieu et ses promesses, tout simplement, de faire confiance à Dieu et sa parole. Mais je pense que cette histoire nous donne quelques nuances peut-être pour bien capter une vision de la foi. Moi, je vois trois nuances de la foi dans sa réponse, dans cette réponse de cette femme. Premièrement, la vraie foi réalise que Dieu est bien meilleur qu'il paraît dans les médias. C'est vrai que ces paraboles, c'est un peu dur. Hein? C'est pas vous la priorité. Et la dame dit oui, je suis d'accord. Je ne suis pas dans la position, je ne suis pas un enfant, peut-être comme les Israélites, dans ce sens-là. Mais je sais que tu es tellement généreux. Je sais que Dieu est tellement bon, que juste quelques miettes, c'est tout ce dont je vais avoir besoin. Elle a une confiance dans la bonté, pas liée à ses mérites, ses valeurs, mais vraiment liée au caractère de ce Jésus. Elle avait entendu plein de choses, évidemment, de ce Jésus, qu'elle a fait tellement de miracles, tellement de bonnes choses, qu'il a réagi même face à des choses qui étaient peu dures, avec une confiance que Dieu était bien meilleur qu'il paraît dans les médias. Vous savez, c'est réel pour nous. On est tous confrontés des fois avec des circonstances, avec des situations auxquelles on peut trouver la conclusion. Oh, Dieu n'est pas si bon que ça. Dieu n'a pas vraiment mon bonheur, mon bien-être comme vision. Ça ne s'applique pas forcément à moi. Et effectivement, c'est le défi d'être comme cette femme, de pas forcément réagir selon les circonstances, mais d'avoir une vision ancrée dans le caractère de Dieu. Ça, c'est la vraie foi. Deuxièmement, par la foi, nous entrons un peu dans l'histoire ou dans le récit que Dieu s'exprime. Enfin, je veux dire quoi? En fait, c'est un commentateur qui a remarqué que cette femme est la première personne dans tout l'évangile de Marc qui comprend une parabole de Jésus. En fait, c'est assez fort. Hein? Vous allez voir cette semaine. en lisant l'évangile de Marc, les disciples qui sont toujours avec Jésus, Jésus va raconter les paraboles, disons, plus simples que celles-ci, et les, chaque fois, des disciples vont avoir du mal. Mais Jésus, vous voulez dire quoi? On ne comprend pas. Et cette dame est la première personne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met dans la parabole. C'est fort, hein? Elle dit, oui, Jésus, c'est vrai, il y a des enfants et des chiens, mais les chiens mangent les miettes. Et elle voit sa vie au travers un peu de la vision que Jésus donne. Et souvent, notre problème, c'est qu'on a une certaine vision du monde, on a une certaine vision de nos vies, on veut mettre Dieu dans notre vision, dans notre récit. Et la vraie foi, on fait l'inverse. On dit, ok, Seigneur, je veux voir le monde comme tu le vois. Je veux me mettre dans l'histoire que tu es en train d'écrire. Je ne sais pas forcément l'avenir de ma vie. Je ne sais pas comment les choses vont se mettre en place. Mais je veux être là. Je veux comprendre ma vie et le monde et les gens autour de moi selon ta vision. Ça, c'est vraiment la foi. Ce n'est pas juste une foi personnelle, mais c'est une façon de voir le monde, de mettre un peu dans l'histoire de Dieu. Et troisièmement, troisième nuance, la foi réalise que peu dans les mains de Jésus est beaucoup. Peu dans les mains de Jésus est beaucoup. Et moi, je trouve c'est intéressant que Jésus utilise l'image du pain dans cette parabole. Et cette histoire se trouve entre les deux multiplications des pains dans l'évangile de Marc. Premièrement, en chapitre 6, on a la multiplication pour les 5000. En Marc chapitre 8, la multiplication des pains pour les 4000. Et après la deuxième multiplication des pains, les disciples vont avoir toujours du mal à comprendre le sens de ce miracle. En fait, Jésus va dire en Marc 8, 21, « Ne comprenez-vous pas encore ?» Alors, il a multiplié des pains pour 5000 personnes. Alors, cette dame, avec l'image de miettes, comprend que peu dans les mains de Jésus est beaucoup. Et c'est fort, hein? Même un chien, ça paye, c'est pas vraiment un repas bourratif de manger quelques miettes sous la table. Par contre, cette dame dit, oui, j'ai juste besoin de quelques miettes, si ça vient de toi, Jésus. Les miettes de toi, ça me suffira. Et elle a compris que peu, que juste quelques promesses qui viennent vraiment de Dieu vaut mieux que toutes les promesses extraordinaires des personnes qui n'ont pas de pouvoir, qui ne sont pas vraiment Dieu. Il dit, oui, j'ai pas besoin du pain, juste quelques miettes. Et Jésus dit, oh, à cause de cette parole, va. Le démon est sorti. Alors, pour reprendre la question au départ, comment se positionner pour recevoir les bénédictions de Dieu? La réponse de Marc est la foi. La vraie foi, tout en reconnaissant notre état de pécheur, qu'on ne mérite pas les choses que Dieu va nous donner. Et un peu ça, c'est un peu ça la vision de l'évangile. D'un côté, on est pécheur. D'un côté, on ne mérite rien, on mérite la colère même de Dieu. Et c'est aussi un peu ça le choc de l'évangile, de Jésus. Paul dit, pour la prédication de la croix, c'est une folie, est une folie pour les Grecs, est une pour les Juifs, c'est quoi? Puissance, non, je cherche, attends. J'avais pensé reprendre. Ben, c'était un scandale, voilà. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Et pourquoi c'est une telle scandale et folie? Ben, parce qu'effectivement, c'était une annonce à notre état de pécheur. Le croix, la mort de le Fils de Dieu sur la croix a montré à tel point nous avions un problème vis-à-vis notre relation avec Dieu. Et c'est un choc aujourd'hui. C'est normal d'aujourd'hui de penser si on est vraiment sincère, c'est tout ce qu'il faut. Et voilà, Jésus vient avec ce même choc. Non, 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 on est loin de Dieu. On a une fosse énorme entre nous et une vraie vie avec Dieu. On a besoin de quelque chose de radical. On a besoin de la mort du Fils de Dieu dans notre place, à notre place. Waouh! Mais en même temps, la croix aussi montre, on a vu, qu'on ne mérite pas, que par la foi, Jésus est pour nous, que même les petites miettes qui tombent de la table aient une bénédiction et une puissance énorme. Je crois que pour nous aussi, on peut appliquer aussi cette idée de foi. La Bible, c'est clair, l'objet de notre foi, c'est la croix. Romains dit, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc on peut savoir que même telle circonstance, même des moments très difficiles, on peut savoir qu'on est aimé par Dieu. Notre foi est ancrée, pas juste dans nos circonstances ou l'état de vie, mais en ce que Dieu a fait. Et même Paul est très clair. Romains chapitre 8, le grand chapitre qui annonce la mort de Dieu. Paul dit que nous séparera l'amour de Dieu. La mort, la persécution, le péril, la nudité, non, rien ne peut nous séparer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Même des fois. Et pendant ce chapitre, il cite un psaume 44 qui raconte le peuple dans une situation de très très difficile après une guerre qui sont vraiment perdus. Il dit nous sommes comme les brebis destinées à la boucherie. C'était un psaume. Paul cite en Romains chapitre 8 pour dire même des moments où on se sent complètement comme les brebis destinées à la boucherie, hein, une situation encore pire qu'un chien sous la table, hein, qu'on est complètement découragé, on peut être toujours sûr qu'on ait des vies ancrées dans l'amour de Dieu. Dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Voilà, donc on voit le choc, on ne mérite pas, et après l'accès, que par la foi, Dieu nous donne plus. Il ne nous donne pas juste un miette, il nous donne il nous remplit la vie, il nous sauve, il nous donne une destinée, il nous donne une vie avec lui. Mais juste pour terminer, peut-être une application concrète. Et là, c'est la prière personnelle. Après tout, cette dame, elle vient avec Jésus avec une prière, non? Jésus, aide-moi, je suis dans une situation difficile. Et aussi, vous savez, les pharisiens, ce débat avec le sujet de la pureté, souvent aussi c'était lié à la prière. Pour les pharisiens, il fallait faire pas mal de choses. Se laver les mains, être bien s'habiller, bien faire toutes sortes de pratiques pour aller au temple, et là, c'était pour prier. Et c'est quand même un contraste très fort entre la manière des pharisiens, qui étaient beaucoup dans l'activité religieuse, beaucoup plus dans de voir est-ce que moi, en tant que ma vie, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut pour me sentir bien devant Dieu, et pas entre cette femme, qui est dans une situation d'impureté, mais une vraie foi en Dieu, elle va oser demander les grandes choses. Moi, je pense, juste pour nous, dans nos vies personnelles, prières, on peut apprendre, on peut avoir une vision d'être un peu comme cette femme dans la prière. C'est-à-dire que souvent, quand ça va, qu'on est un peu dans le style des pharisiens, nos vies de prière vont suivre notre état, comment on se sent devant Dieu. Si on a passé des semaines très cool, on a fait toute la lecture de la Bible qu'on devrait faire, on a fait tout ce qu'il fallait, j'étais très gentil vers les autres, vers ma femme, vers mon époux. Quand je me sens vraiment très bien, je me sens libre de vraiment prier Dieu et demander des choses. Parce que je me sens pur à cause de toutes les activités que j'ai faites. Par contre, cette dame, de voir cette vision de cette dame, de dire, je reconnais tout de suite que je ne suis pas capable, que je ne mérite pas forcément les grandes choses, que je dérange un peu Dieu. Même Jésus voulait rester caché. Cette dame, elle vient et dérange un peu Jésus. Mais je sais que Dieu est tellement bon, il est tellement généreux. Il a fait ce qu'il fallait faire pour me rendre pur à la croix. Donc dans les moments que ça va très bien, je peux prier avec un plein cœur. Quand les moments plus difficiles, je peux aussi prier. Je peux prier avec avec une ferveur, avec une ouverture, parce que je sais ma vie de prière est vraiment basée sur l'offre de Dieu et pas mes activités religieuses. Et ça nous, je crois, libère aussi. Libère de vraiment être dans une relation avec Dieu comme notre Père, comme Jésus, d'oser demander les grandes choses, d'oser dans la prière, mais aussi d'être prêt, même quand la réponse est peut-être difficile, d'accepter et de réagir par la foi ancrée dans sa personne. Amen. Prions pour terminer. Merci pour l'assurance que même les miettes qui tombent de ta table sont pleines de vie, sont pleines de puissance. Et pour l'assurance que tu nous as donné tellement plus. Tu n'as pas juste donné quelques miettes, mais tu nous as donné toi-même sur la croix pour nous. Et non, nous te prions à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen.